Et pour parler de sport, qui mieux de placé que Olivier Beauregard qui était avec nous. Bonjour Olivier.
Salut.
Ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, ben en tout cas, ça va mieux que les joies des Leafs, je pense là.
Ben, je te dirais que la ville de Toronto au complet.
Eh oui.
Parce que honnêtement, c'est écoute, après la défaite d'hier là, au compte de 6-1 contre les Panthers, ça a été vraiment, là, depuis les derniers 24 heures, ça a été vraiment dramatique, tout ce qu'on peut lire sur les Leafs de Toronto. Mm-hmm. Je regardais, avant de faire la chronique aujourd'hui, je regardais un peu ce qui s'était dit dans les journaux, à la radio à Toronto, puis tu seras pas surpris d'apprendre que c'est la panique générale.
Oui, oui.
On a comme l'impression que l'histoire se répète, mais c'est un peu ça. Les Leafs, là, faut comprendre que dans cette série-là contre les Panthers, ils menaient 2-0 la série. Et depuis qu'on est parti à Sunrise en Floride, ben la série est maintenant 3-2 en faveur des Panthers. Et ça fait en sorte que les Leafs ben retournent en Floride pour le match numéro 6 et pourraient subir l'élimination là, parce qu'ils font face à l'élimination. Mais tu sais, ce qui retient l'attention là-dedans là, le plus, là, c'est qu'encore une fois cette année en série, après avoir connu une saison extraordinaire, là, encore une fois en série, c'est les canons de cette équipe-là qui ne connaissent vraiment pas de bonne série. Je pense à Mitch Marner, je pense à Austin Matthews, je pense à même Matthew Nice qui a été un joueur très important cette saison pour les Leafs. Mais tu sais, c'est malheureux, mais c'est vraiment, comme je le dis, une histoire qui se répète. On a comme l'impression que le noyau de cette équipe-là est pas capable de suivre la cadence des séries éliminatoires. C'est correct d'avoir passé la première ronde, puis c'est correct que les Leafs aient été en mesure d'atteindre le deuxième tour, mais c'est pas suffisant pour une équipe qui aspire à la Coupe Stanley depuis plusieurs années. Là, j'écoutais les commentaires d'après-partie hier, puis honnêtement, c'est désastreux. Là, une défaite de 6-1 à domicile en séries éliminatoires pour un match aussi important que le match numéro 5, là, c'est inacceptable. On a vu des chandails être lancés sur la glace. Des chandails des Leafs être lancés sur la glace à Toronto. Écoutez, les partisans avaient pratiquement tout déserté en troisième période. Non, c'est épouvantable ce qu'on peut voir comme image à partir du match d'hier. Mais c'est le message qui a été lancé à l'organisation des Leafs en voulant dire c'est plus suffisant d'atteindre les séries puis d'avoir une belle saison régulière. Ça prend en plus. On veut la Coupe Stanley. Et je pense que le message, les joueurs le comprennent, mais je pense qu'on est rendu à une autre étape chez les Leafs. Puis je m'explique, là, ça fait plusieurs années qu'on garde principalement le même noyau, c'est-à-dire les John Tavares, Matthews, Nylander, Marner. Malheureusement, ça fonctionne quand il n'y a pas de pression, mais à partir du moment où les esprits s'échauffent, là, ça marche pas. Tu sais, ça marche pas, c'est malheureux, puis c'est la même affaire année après année. Donc moi, je pense que si les Leafs subissent l'élimination en 6 parties, puis même s'ils subissent en 7 parties, là, si les Leafs perdent au deuxième tour cette année, là, ben là, la dernière personne qui va devoir se regarder dans le miroir, c'est Brendan Shanahan. Puis c'est tout de même lui là qui a décidé de monter cette équipe-là, puis d'y aller année après année depuis déjà plusieurs moments. Puis ce qui me tracasse un petit peu, c'est qu'on a dit on va emmener un entraîneur d'expérience en Craig Berube, un gagnant, le gars qui a gagné la coupe avec les Blues de Saint-Louis il n'y a pas si longtemps.
Oui.
Puis on pensait que ça allait être ça la solution, mais faut comprendre que là, on est rendu ailleurs. C'est vraiment le noyau de cette organisation-là qui fonctionne pas. Moi, je pense, là, entre toi et moi, que Mitch Marner a joué son dernier match à Toronto parce que je pense que les Panthers, demain, vont éliminer les Leafs. Puis je pense pas que Mitch Marner va rester un Maple Leaf, même s'il dit que lui, son objectif, c'est de rester à Toronto. Je vous le dis, là, j'ai comme l'impression qu'on l'a vu pour la dernière fois dans l'uniforme des Leafs à Toronto hier.
Okay.
Je vois pas comment ce gars-là peut re-signer un contrat là-bas. Je pense que là, si on est l'organisation, il faut faire un changement. Puis je pense même que Brendan Shanahan pourrait être le prochain gars à sauter parce que tu peux pas enlever Craig Berube de là. Il a connu une saison fantastique.
Oh,
en série, c'est les mêmes résultats que quand c'était Sheldon Keefe, puis quand c'était etc. Mike Babcock, même chose. Donc là, je pense qu'on est dû du côté de Toronto pour passer au prochain appel. C'est malheureux, mais là, je pense qu'on n'a pas le choix. Parce que cette organisation-là, si tu veux pas perdre tous les joueurs qui désirent signer chez toi puis qui pensent avoir une chance de remporter la Coupe Stanley année après année, si tu veux pas perdre cette vitrine-là, ben il va falloir que tu passes à la prochaine étape. Puis moi, je pense que Brendan Shanahan, ça pourrait être le prochain homme congédié chez les Leafs. Puis je pense également que Mitch Marner ne sera pas de retour la saison prochaine. Je pense que là, on va être obligé de faire une croix là-dessus.
Très rapidement, est-ce que, si on regarde l'autre côté de la médaille, ce qui est arrivé avec leur gardien, Tony Stolarz, est-ce que ça pourrait peut-être jouer dans balance sur le fait qu'ils perdent un en arrière de l'autre, c'est vraiment pas, on n'est vraiment pas là, là.
Ben, écoute, est-ce que Wald est pas, est-ce que Wald est mauvais depuis le début de cette série-là? Je pense pas, là. Je veux dire, je pense que il a quand même tenu le fort cette saison quand il était, on a fait appel à lui. Mm-hmm. En série, il a fait un bon boulot jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, je pourrais prendre l'exemple d'Edmonton où Jeff Skinner se blesse, perd son poste. Après ça, c'est Pickard qui se blesse plutôt, redonne le poste à Stuart Skinner, puis Skinner vient de faire deux blanchissages.
Oui.
À un moment donné, il faut que les gars en avant de lui jouent au hockey. Hier, là, il n'y a pas cinq minutes de jouer dans le match, puis les Panthers ont déjà pris les devants, puis ont jamais regardé en arrière. C'est une équipe qui est marquée au fer rouge, là. C'est pas compliqué. Mm-hmm. Ils sont pas capables de sortir de situations difficiles. À partir du moment où il affronte de l'adversité. Tu sais, je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y a un joueur de blessé, il y a un joueur important, là. Puis à partir du moment où tu affrontes de l'adversité comme organisation, faut que tu changes ta façon de jouer, faut que tu t'améliores. Si c'est vraiment Wolf le problème à Toronto, là, disons que c'est ça, là, l'équation, là. Comment ça se fait que les Leafs sont pas capables de s'adapter? Ils ont Brandon Tanev, ils ont Morgan Riley, ils ont Brandon Carlo qui a signé là cette année. Comment ça se fait que cette équipe-là est pas capable de s'adapter? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable, en tant que défensive, d'accorder moins de lancers? Hier, là, après le premier but des Leafs, c'était déjà 12 à 3 les tirs au but en faveur des Panthers, plutôt. C'était déjà 12 à 3 en faveur des Panthers. Écoute, t'accordes beaucoup trop de lancers. Faut qu'à un moment donné, t'aides ton gardien aussi si tu veux connaître du succès. Peu importe c'est qui est dans le filet. Parlez-en à Connor Hellebuyck qui va gagner le Vézina, mais qui n'est pas capable d'arrêter un ballon de plage en séries éliminatoires. À un moment donné, faut que l'équipe devant lui joue au hockey. Et chez les Leafs, présentement, moi, j'ai comme l'impression que c'est... je vais même te donner une indice de comment ça se passe dans ce vestiaire-là. Hier, t'as Brad Marchand dans une mêlée en fin de match qui saute, qui empoigne William Nylander. Il est en train de lui faire la prise du sommeil, là. Il n'y a pas personne qui réagit. Il n'y a pas personne qui va voir Marchand. Il n'y a pas personne qui tente de l'enlever de là. Ça a été les officiels qui ont enlevé Brad Marchand de sur Nylander. Nylander, là, c'est tout de bien ton joueur de concession. Puis c'est à peu près celui-là qui produit le plus en série en ce moment. Comment se fait-il que personne hier est allé prêter main forte? Je te le dis, c'est plus qu'une histoire de gardien de but. Moi, je pense que c'est une histoire de vestiaire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce vestiaire-là. Puis ça fait plusieurs années, dès qu'on rencontre l'adversité. Alors moi, là, j'irais, comme on dit en bon québécois, là, j'irais donner un coup de pied dans le nid de guêpe.
On va changer de sport. On va parler d'un combat qui était quand même assez payant pour Marc-André Barriot.
Oui, absolument. Au Centre Bell la semaine dernière, je vous parlais la semaine dernière en vous disant, tout dépendant du résultat de ce combat-là, est-ce qu'on assiste au dernier combat de Marc-André Barriot? C'était pas impossible parce que Barriot venait de subir 3 défaites consécutives, dont 2 par knock-out. Ça s'était pas déroulé comme il le voulait. Puis on le sait, là, la UFC est pas très patiente avec ses combattants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu connais des périodes plus difficiles, généralement, on t'offre pas un contrat, surtout quand c'est un contrat de 4 combats. Barriot était à son dernier combat de son contrat de 4. Il devait l'emporter, puis il l'a fait de brillante façon. Honnêtement, là, c'était tout un combat. Barriot s'est imposé devant les partisans à Montréal. Il a sacré une volée, là, permettez-moi l'expression, à son rival, à Silva. Et en plus, non seulement il lui a donné une bonne raclée, mais il lui a infligé un KO. C'était le combat de la soirée. Ça a même gagné le Fight of the Night.
Wow.
C'est beaucoup, là. C'est beaucoup le message que Barriot a lancé. C'est-à-dire qu'à 35 ans, il a dit « Je suis pas prêt à accrocher mes gants. Je veux continuer. Faites-moi confiance. Je suis encore capable de me battre. » Puis ça n'a pas pris beaucoup de temps, là. On parle d'un combat qui s'est déroulé samedi. Et là, au moment où on se parle, on est jeudi le 15 mai. Et Marc-André Barriot vient de signer un autre contrat en UFC.
Wow.
Il va se battre pas plus tard qu'au mois de juillet à Abu Dhabi. Et ça, là, c'est vraiment une excellente nouvelle pour lui. Ça veut dire qu'on croit encore qu'il est capable de faire quelque chose de bon. J'ai hâte de voir comment il va pouvoir poursuivre cette ascension-là, sans dire poursuivre cette ascension, mais être capable de se battre. Parce que là, il va affronter Shara Magomedov. C'est quand même un très, très bon combattant. Un gars qui n'a pas perdu souvent dans l'UFC non plus. Donc, je pense que c'est un beau défi de taille. Mais si Marc-André Barriot est capable de tenir justement le fort puis d'être en mesure de remporter ce combat-là, que ce soit par KO ou décision des juges, je pense que pour lui, là, ça augure bien pour le reste de sa carrière. Parce que Barriot, là, il a réussi un exploit. C'est pas juste celui de se battre en UFC. Là. Pour un petit gars de chez nous, de Gatineau, ce gars-là, il est rendu à 15 combats dans l'octogone.
Wow.
c'est rare que ça arrive chez les Québécois. Donc, c'est fantastique qu'est-ce qu'il est en train de réaliser. Puis là, ben maintenant, il vient de signer un contrat pas plus tard qu'hier. Il va se battre à Abu Dhabi le 26 juillet prochain. Donc, soyez sûrs qu'on va suivre ça.
Bon, on va surveiller ça, certain. Et autre chose qu'on va surveiller, en tout cas, les fans de football vont sûrement surveiller ça, des joueurs de la NFL aux Olympiques.
Oui, j'ai trouvé ça inusité. Les dirigeants de la NFL ont décidé de voter en faveur du retour des joueurs. Ben pas plutôt du retour, mais d'envoyer les joueurs de la NFL aux Jeux olympiques de 2028.
Okay.
Mais attention, pas au football américain qu'on connaît, mais plutôt au flag football. Je trouve ça intéressant. Je pense que c'est surtout pour question de vitrine pour les athlètes de la NFL, là, de pouvoir aller participer aux Jeux olympiques. Je trouve ça intéressant. Les propriétaires de la NFL vont voter la semaine prochaine là-dessus sur une résolution qui pourrait justement faire en sorte que les joueurs participent aux Jeux olympiques de 2028. Mais moi, ce que ça me dit, là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Soyons honnêtes, tu n'as pas de risque de blessure au flag football ou pratiquement pas. C'est juste bon pour une ligue, c'est juste bon pour la NFL de mettre ses joueurs en vitrine. C'est pas comme si la NFL avait pas beaucoup d'exposure. Là. Au contraire, je pense que c'est la ligue qui réussit mieux là-dedans. Mais ça reste que je trouve ça intéressant. Puis ça va faire en sorte, pour vrai, qu'une fois pour toutes, on va voir les meilleurs athlètes au monde dans leurs compétitions respectives. Tu sais, je vous l'ai dit, là, c'est bien beau les Jeux olympiques, le hockey à l'hiver et tout ça. Moi, là, j'étais le premier à dire que ça prend les joueurs de la Ligue nationale, peu importe ce que ça coûte aux équipes, parce que ce sont les meilleurs joueurs au monde. Puis c'est ce que tu veux. À la base des Jeux olympiques, c'est les athlètes d'excellence, c'est la crème de la crème. Tu peux pas envoyer, malheureusement, là, même si ça leur a offert des chances exceptionnelles à certaines personnes, tu peux pas envoyer n'importe qui. Il faut que les gars qui représentent leur pays, les hommes et les femmes, soient les meilleurs dans leur sport respectif. Puis je suis vraiment content que la NFL a décidé d'aller de l'avant, mais je suis pas surpris non plus. La NFL, c'est une organisation qui voit tellement plus loin que juste son sport. Tu sais, regardez, là, ça a été le dévoilement du calendrier de la saison hier. On a été capable de tenir tout le monde sur le bout de leur siège juste pour dévoiler un calendrier. Ils font les choses de la bonne façon, donc chapeau à la NFL. Puis moi, je pense que si ça fonctionne, il va y avoir de l'intérêt pour le flag football aux Jeux olympiques de 2028, je peux vous le confirmer.
Ben honnêtement, avec les touchdowns qu'ils font, des fois, ils pourraient s'inscrire aussi en breakdance, mais ça, c'est un autre débat.
Hey, écoute, ça n'a pas fait long feu au dernier jeu, là. Fait que je sais pas si c'est une discipline qui va revenir. Ça a plus été, mettons, anecdotique qu'autre chose. Mais non, t'as tout à fait raison. Je pense qu'ils seraient capables de se débrouiller dans le breakdance et dans ces choses-là.
Olivier, merci beaucoup pour ces analyses de sport. Et bien sûr, on va surveiller le match des livres de demain.
Oui, absolument, contre les Panthers. Puis je mets mon petit 2$ que quand on va se reparler la semaine prochaine, les Panthers vont être en série puis les Leafs vont être au golf.
Bon, on va garder ça en tête. Merci.
Merci, bye-bye.